Chapitre 29. Seul. Tel un jouet complexe et minuscule, le vaisseau flottait dans l'espace, inerte, immobile. Il était impossible de croire qu'il était en cet instant l'objet le plus rapide dans le système solaire. Il était tout aussi impossible de penser qu'il pouvait abriter la vie. Au contraire, un observateur eût noté deux signes inquiétants. Les sas étaient béants et l'astronef était environné d'un nuage de débris qui se dispersait lentement. Des lambeaux de papier, des feuilles de métal, des fragments méconnaissables étaient répartis dans quelques mille cubiques d'espace. Ça et là, des essaims de cristaux scintillaient comme des diamants dans la lumière du lointain soleil. Les liquides, eux aussi, avaient été aspirés hors du vaisseau et instantanément gelés. Tout indiquait le désastre ainsi qu'une nappe d'épave flottant à la surface de l'océan. Mais nul vaisseau ne pouvait s'engloutir dans l'immense océan de l'espace. Même détruit, il était à jamais accompagné de ces débris qui tournaient autour de lui. Pourtant, l'astronef n'était pas complètement mort. Il lui restait encore de l'énergie. Une pâle lueur bleue filtrait des baies d'observation et se reflétait sur les parois intérieures des sas. S'il restait de la lumière, il restait encore de la vie. Et finalement, il y eut un mouvement. Des ombres dansèrent sur les reflets bleuâtres. C'était un objet cylindrique, grossièrement enveloppé de tissu. Un autre le suivit un instant plus tard, puis un troisième. Ces trois objets avaient été éjectés du vaisseau avec une grande vélocité, et en quelques minutes, ils furent à des centaines de mètres. Une demi-heure s'écoula, puis quelque chose de beaucoup plus volumineux quitta l'un des sas, une capsule spatiale. Lentement, elle contourna la coque et vint s'ancrer à la base du support de l'antenne. Une silhouette en scaphandre en émergea et travailla pendant plusieurs minutes avant de regagner l'appareil. Finalement, la capsule revint vers le sas. Pendant un instant, elle s'immobilisa devant l'ouverture, comme si elle avait de la difficulté à regagner son garage. Après une ou deux manœuvres, elle réussit pourtant à pénétrer à l'intérieur. Durant plus d'une heure, il ne se passa rien. Les trois sinistres objets étaient maintenant hors de vue. Les sas se refermèrent alors, se rouvrirent, se refermèrent à nouveau. Un peu plus tard, la clarté bleuâtre de l'éclairage de secours s'éteignit et fut remplacée par une lumière plus intense. Explorateur 1 revenait à la vie. Un signe encore plus manifeste apparut. Le grand disque de l'antenne, qui depuis des heures était demeuré inutilement dirigé vers Saturne, se remit en mouvement. Il pivota vers la poupe, en direction des réservoirs et des ailerons de propulsion, puis comme un tournesol de métal, il se dressa vers la lumière. David Bowman centra avec soin la croix du viseur sur l'image flottante de la Terre. Sans contrôle automatique, il devait corriger sans cesse la direction du faisceau, mais celui-ci, une fois aligné, pouvait rester fixe durant plusieurs minutes au moins. Désormais, aucune impulsion contraire ne venait plus l'écarter de sa cible. Et Bowman parla à la Terre. Il faudrait plus d'une heure pour que ces paroles atteignent la planète et que le contrôle de mission apprenne ce qui s'était passé. Et il faudrait encore une autre heure avant qu'il reçoive la réponse. Il était difficile d'imaginer ce que pourrait bien dire la Terre, si ce n'était un simple adieu.